vous aurez compris aussi qu'avec un corpus comme le mien, bien que je vais croiser un peu la cuteness de Vincent, il ne sera pas question d'Animal Crossing, ni de Nintendog, ni de Zoo Tycoon, ni même de Farmville 2, qui montre tout le monde tout heureux. Je serai dans un autre registre. Mais on a un exemple canonique en jeu vidéo maintenant depuis 2013 pour parler de spécisme avec le reboot de Lara Croft dans Tomb Raider. Alors je remercie d'ailleurs Jérôme qui m'a, à travers son travail, redonné ou m'a refilé des références et on travaille un peu dans le même corpus. Alors ici, il y a deux choses. Vous avez le seul mot dit dans cette séquence, le « sorry » de Lara Croft. Mais il est opposé à la fin à ceci que vous avez là. C'est-à-dire qu'il y a une dissonance, qu'on appelle en jeu vidéo une dissonance ludonarrative, entre ce que le jeu est comme jeu et ce qu'il est comme histoire. Dans mes travaux sur l'émotion, le sorry de Lara dans cette séquence-là, c'est ce qu'on peut appeler des émotions fictionnelles, c'est-à-dire c'est des émotions empathiques de témoins qui sont ancrées dans le monde fictionnel. Et les préoccupations abordées par ce monde, c'est le sorry de Lara. C'est elle qui va dire « désolé, petit chevreuil ». Les points de vie, les points d'expérience sont des émotions plus vidéoludiques parce que tout à coup, on arrive à avoir des émotions qui sont basées comme joueur de jeux vidéo à nos propres préoccupations, à nos actions dans le jeu, dans un jeu, donc un monde fictionnel quand c'est le cas, et les réactions qui en résultent. Je note bien que je parle bien de gameplay emotion, de jouabilité, parce que là, quelque part, c'est le joueur qui peut décider d'agir. Un joueur vegan peut décider de ne pas tuer les animaux. On aura cette possibilité-là. Donc, les préoccupations vont devenir quelque chose de très éthique. Mais l'idée de transformer l'animal en autre chose, en XP, en point d'expérience, va nous amener à ce que Mélanie Joy a défini comme étant de la distorsion. Il va y avoir une déformation entre nos perceptions à travers un trio, objectivation, désindividualisation et dichotomisation, qui vont nous empêcher de nous identifier aux animaux. Alors tout à coup, qu'est-ce que c'est dans des XP dans un jeu vidéo? C'est des points d'expérience qui vont nous permettre d'augmenter les capacités de Lara durant le jeu. Et il va falloir les utiliser quelque part. L'animal devient tout à coup ressource, c'est-à-dire si je reprends le trio de Mélanie, l'animal est vu comme une chose, comme une ressource, comme une abstraction, même c'est des points. Je ramasse des points que j'aurai besoin, donc plus je suis chevreuil, plus j'aurai de points. Et je suis vraiment dans une catégorisation. Tout à coup, on est dans une relation très stricte entre j'ai besoin de ceci, j'ai pas besoin de cela. Encore une fois, Jérôme travaille beaucoup sur le spécisme. Il y a des jeux vidéo maintenant qui vont donner préséance à la possibilité d'utiliser le végétal de la même manière que les animaux. Mais en général, le jeu vidéo est toujours dans ce rapport animal assez sérieux. Le jeu vidéo va quelque part... Bon, je fais une petite nuance, j'ai bien fait de l'animer. Ça sera un peu ma conclusion, mais la panique morale autour des jeux vidéo fait en sorte que l'animal et l'humain sont un peu traités de la même manière. Surtout dans mon corpus, on le verra. Mais bref, l'idée de déformer nos perceptions, c'est pour Mélanie de faire en sorte qu'on ne peut pas s'identifier de la même manière. S'identifier aux autres, c'est quoi? C'est voir quelque chose de soi en eux et de voir quelque chose d'eux en nous, même si c'est la seule chose à laquelle on s'identifie le désir d'être libre de souffrance. L'identification est un processus cognitif et lorsque nous considérons les animaux comme des objets, des abstractions, des éléments dans des catégories fixes, nous diminuons ce processus. Je ne suis vraiment pas un spécialiste de spécisme, mais quelque part, je comprends le processus émotionnel. C'est-à-dire que pour Mary Joy, on a un rapport d'identification avec l'animal, de l'empathie. Plus cette empathie est grande, plus il y aura un dégoût de tuer, dégoût de manger l'animal. L'animal n'est pas seulement une source alimentaire, c'est quelque chose de vivant. C'est aussi, surtout, quelque chose qui, quand on veut... travailler l'égalité entre les espèces, cette référence canonique de Peter Singer, ce n'est pas tant cette relation de conscience ou d'intelligence, c'est bien ce rapport de souffrance. Je lisais, ce qui est intéressant de savoir qu'on peut évaluer est-ce qu'un animal est intelligent ou conscient, il y a un rapport très très philosophique, est-ce qu'un animal a des émotions. Déjà de penser ça, c'est de faire un rapport d'espèce, parce que je me pose comme humain, comme étant celui qui va dire que l'animal aurait des émotions. Même chose en jeu, dire qu'un animal joue, c'est ma vision humaine. Est-ce que l'animal joue? Je ne le sais pas. Mais quelque part, moi, dans ma position de joueur et dans ma position d'humain, c'est cette relation de souffrance qui va m'amener à penser le rapport d'empathie et le rapport d'émotion. Qu'est-ce que c'est des émotions? Ils sont généralement dirigés vers des agents qui sont capables de quoi? De plaisir et de souffrance. Nous pouvons nous identifier avec d'autres agents qui profitent ou souffrent, et cela induit des émotions. Je n'ai pas d'émotion pour les roches, je n'ai pas d'émotion pour la matière. Il y a une émotion pour le vivant. Cette émotion pour le vivant, elle est largement reliée ou focalisée sur un type d'objet émotionnel. C'est la base de l'être vivant, que ce soit moi comme personne ou l'autre. Chose intéressante ou chose importante, il n'y a pas d'émotion s'il n'y a pas de préoccupation. Si je ne me préoccupe pas, je n'ai pas d'émotion. Je vous ai mis ici Lara Croft, Alex et son petit prétendant durant le jeu Tomb Raider. Je le vois à peine quelques minutes à travers des scènes non interactives. Je ne m'en préoccupe pas. Quand il meurt, j'avoue que je n'ai pas beaucoup d'émotion pour lui. Il y a une tactique vidéoludique qui va me donner des outils que j'ai besoin. C'est une quête, mais pas de préoccupation, pas d'émotion. On peut dire la même chose pour les animaux. Alors, les émotions peuvent être dirigées vers des êtres vivants tels que les chiens, les chats et les oiseaux. Plus la créature est perçue comme étant similaire à l'être humain, plus grande est l'intensité émotionnelle vers elle. Alors, quelque part, bien sûr, puisqu'on est dans un colloque qui interroge les rapports inter-espèces, bien, quelque part, c'est d'abord dans cette relation de compagnie, dans cette première connaissance que nous avons des animaux, c'est-à-dire des animaux domestiques, les fameux pets en anglais, qui sont des compagnons et des amis. Je vous dirais, en jeu vidéo, on n'a pas beaucoup de chats. Il y a beaucoup de YouTube de chats sur Internet. Il y a ce jeu qui est sorti récemment, donc Cat Lady, qui est une histoire de dépression où elle va ramener des chats et les chats ont une partie de sa, font partie de sa vie et on l'amène à un réconfort. Je pourrais vous montrer ça rapidement. Les chats servent dans les jeux vidéo à ce qu'ils servent dans les films, c'est-à-dire à ceci, à faire des beaux effets de surprise et à se faire bouffer. En général, dans les films d'horreur, le chat sert plutôt à ceci. On ne peut pas faire autrement de retourner à cet autre animal de compagnie qui est peut-être plus proche, plus intéressant dans un rapport de jouabilité. Alors, si nous considérons la garde d'un animal comme la formation d'une amitié significative ou d'un lien social avec ce dernier, et si la perspective de l'animal sur l'affaire est importante pour nous, alors les espèces domestiquées avec la plus grande similarité comportementale et cognitive avec les humains, et des espèces comme les chiens qui ont coévalué avec les humains, peuvent faire les meilleurs animaux de compagnie. Dans mon corpus, il y a deux exceptions qui sont très très riches. On a deux jeux dans lesquels il y a des chiens, Hunting Ground et Rule of Rose, qui vont devenir très importants. Brown, c'est pas le chat de Shrek, il est quand même cute. Alors déjà, jeu vidéo, dans le rapport audiovisuel, il y a une question de représentation. On va nous présenter le petit chien de belle manière. Alors, ici ou ici, relation à l'animal. Bon, ici, l'animal blanc, le chien blanc. Donc, c'est tout l'imaginaire de ce compagnon-là. Sauf qu'en jeu vidéo, au-delà de la représentation, il y a toute cette question de jouabilité qui va devenir importante. Pourquoi? Parce que les deux chiens dans les deux jeux vont devenir mes compagnons d'aventure. C'est-à-dire que, et oui, je dois en faire mon partenaire, je dois en prendre soin, je dois développer son amitié. Alors, il faut vraiment que je m'occupe de lui. En contrepartie, l'animal va devenir celui qui va me permettre de résoudre des intrigues, de trouver des objets et va devenir aussi moyen de défense. Donc, le chien peut me défendre quand je suis attaqué. Même chose avec Brown, il va devenir mon compagnon durant le jeu. Je ne peux pas, je suis pris, c'est un personnage non joueur, je suis pris avec le chien. Mais évidemment, on développe une complicité pendant les 10 heures de jeu. Pourquoi? Parce que je peux le flatter, je peux m'en occuper. Et plus je le fais, plus il va aimer ça. Et je vous disais, C'est lui qui va chercher les objets, j'en ai absolument besoin pour résoudre des intrigues, pour avancer dans le jeu. Dans ces deux jeux-là, la relation que j'ai avec le chien dure sur plusieurs heures. C'est mon adjuvant, c'est celui avec qui je vais traverser l'horreur. À la fin de Hunting Ground, il y a diverses fins, mais la plupart des fins, je pars avec Ewie. En normal, il peut pas mourir. Quand je joue à Hard, il peut se faire tuer. Je vais vous enlever la séquence pour qu'on avance un petit peu, mais bon, il se fait tuer à coups de pied par l'un des méchants dans le jeu. Même chose avec Brown. Rule of Rose est super intéressant. Un jeu qui a été censuré parce que c'est un club de jeunes filles qui vont torturer des animaux et d'autres jeunes filles. Ici, on va utiliser le rat au bout d'un bâton pour pouvoir. Bon, vous voyez qu'est-ce qui se passe. Brown va mourir dans l'histoire. Il va même mourir deux fois plutôt qu'une parce qu'on est dans l'imaginaire de Jennifer, la personnage. Donc le chien sert de compagnon, mais sert aussi de relation émotionnelle. Ça fait 8 heures que je suis avec mon chien et tout à coup, on me le tue. Le jeu vidéo, donc, en général, va être très opposé dans ces deux relations-là. C'est-à-dire qu'un autre jeu très canonique, Resident Evil 4, j'ai un loup au début, j'ai le choix de sortir le loup de son piège. Si je le fais, plus tard, le loup va venir m'aider à combattre un monstre. Si je ne le fais pas, je serai seul à combattre le monstre. Alors, voir l'animal comme compagnon, l'animal comme adjuvant. Mais vous aurez compris que je vous parle d'épouvante, que je vous parle d'horreur, et que finalement, le compagnon dans un jeu vidéo d'horreur, c'est pas l'animal qu'on voit le plus souvent. Il faut le transformer en ennemi. Il faut le transformer en ennemi, mais dans mes lectures sur tenter de définir le corpus, c'est un type d'ennemi particulier multiple. C'est-à-dire que dans Animal Horror Cinema, on fait une distinction entre l'ennemi et l'antagoniste. C'est-à-dire que dans un film comme Jaws ou Orca, l'anthropomorphisation de l'animal, on lui donne une pensée humaine, il devient le vilain du jeu, facilite et est nécessaire à la représentation de l'animal comme antagoniste dans la lutte entre l'animal et l'humain. C'est un adversaire et sa relation au monde humain est donc plus complexe que le seul rapport de prédateur et de proie. Vous avez tous vu Jaws, le requin, il y a une intelligence qui devient humaine et qui devient machiavélique, maléfique. En jeu vidéo, ça ne fonctionnera pas vraiment comme ça parce qu'on est dans une relation plus de prédateur et de proie. Je suis dans un contexte d'opposition qui doit créer la peur. Alors la peur, c'est quoi? Je peux aller rapidement. La peur, c'est toujours basé sur quelque chose qui doit arriver. La peur est toujours sur le futur. J'ai peur de quelque chose. La peur est une émotion qui est primaire, qui est orientée vers un objet et qui est orientée vers un but. J'ai peur de quelque chose. On a défini les 3 F de la peur, c'est-à-dire la peur, quand j'ai peur, je fiche sur place ce qui me donne le moment de savoir qu'est-ce que je vais faire, mais en général, je vais fuir ou je vais me battre faire face. L'animal de compagnie ne fuit pas et ne se bat pas. Un animal qui devient mon compagnon, je suis dans une relation affective, il ne s'enfuit pas et il ne me saute pas dessus, j'ai ma relation. Par exemple, ou à l'inverse, un animal, lui, sera vraiment méchant et va chercher soit à m'attaquer ou soit à fuir s'il se trouve en danger. Je note ça rapidement pour parler de la notion de peur. La peur est toujours quelque chose qui est autour de moi. Pascal Bonnisère a défini le hors-champ cinématographique comme étant le champ aveugle, mais je renvoie à son exemple qui est super pour nous, c'est-à-dire qu'il renvoie au requin des Dents de la Mer de Jaws. Et nous disons, on marche à ces films-là, c'est parce que nous sommes pris plus ou moins fortement dans les tenailles de ces deux champs, le hors-champ et le champ. Mais surtout, si le requin était tout le temps sur l'écran, ce serait très vite un animal domestique. Il ne ferait plus peur. Il serait toujours là. Alors, vous aurez compris qu'avec l'horreur, l'animal est toujours quelque chose qui est en périphérie. Mais rapidement, l'animal dans les jeux vidéo, c'est aussi, surtout, principalement, quelque chose comme cela. Donc, pensez à mon champ aveugle. Je vous montre la version de 2002. Il y a une nouvelle version en 2015 qui était faite en HD, mais ça existe. Donc, l'arrivée des chiens par les fenêtres était déjà là en 96. Mais ces chiens-là, finalement, ça, c'était mon titre d'intervention. Quelque part, on n'est plus tout à fait dans l'animal quand on arrive dans l'horreur. On va devoir poser une bête. On va être dans un rapport de force. Et le mot bête, il y a toujours cette question d'une nature beaucoup plus sauvage, moins contrôlée, d'un statut d'intelligence moins fort qui n'a toujours quelque part qu'une seule visée, c'est-à-dire d'attaquer l'autre quand c'est nécessaire. Donc l'animal en jeu d'horreur est une bête. Pire encore, il est un monstre. Il va devenir un monstre. Noël Carroll, qui a défini cette figure dans l'horreur, va dire « Les monstres horrifiques sont toujours menaçants. Cet aspect de la conception des monstres horrifiques est, je pense, incontestable. Ils doivent être dangereux. Le monstre de la fiction horrifique est en fait, n'est pas uniquement mortel, mais il est aussi, et c'est une autre chose qui est importante pour nous, dégoûtant. » Le monstre, pour Carroll, est toujours impur. C'est quelque chose, mais c'est aussi quelque chose d'autre. Pour Carroll, on crée des monstres avec une certaine fusion. On va fusionner des éléments, des niveaux, des figures. La construction des créatures transgresse des distinctions aussi catégoriques intérieur-extérieur, vivant-mort, insecte-humain, chair-machine, et ainsi de suite. Le chien dans Resident Evil, il n'est pas seulement dangereux parce que c'est une bête, c'est un chien zombie. Pire encore, c'est un chien qui va passer à travers des expérimentations génétiques ou des visions cauchemardesques. Celui-là n'est pas si pire. Celui-là est un peu plus épeurant parce que sa gueule, c'est sa tête au complet. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était Silent Hill, un chien venu directement des propres cauchemars du personnage. Vous avez dans un autre jeu d'horreur, Alone in the Dark, encore une fois, ces chiens un peu weird. Vous avez ces monstres dans Resident Evil qui vont mélanger les animaux, les léopards, les lézards, les chauves-souris. Silent Hill, que j'adore, va mélanger les monstres un peu anthropoïdes, va les sons, donc ces monstres-là, le numbody qui s'appelle ici, un bruit d'âne, de vache, de chimpanzé. Alors on a pris des mots, des sons d'animaux pour nous faire entendre ces monstres-là. System Shock 2, vous avez des chimpanzés mais qui ont le crâne ouvert, et on peut même descendre jusqu'à Dino Crisis, qui est vraiment l'idée du dinosaure, mais presque un dinosaure maléfique. Alors, le jeu vidéo, c'est cette relation, non pas à l'animal, mais à la bête, mais au monstre, et je fais ça souvent. Donc il y a un schéma canonique en jeu vidéo d'épouvante, c'est-à-dire que je dois toujours faire face au monstre. Je sais qu'est-ce qui va se passer, et je sais qu'est-ce que je vais devoir faire. Alors, quelque part, je reprendrai le schéma de Melanie Joy pour dire que, dans l'horreur, on part d'abord dans cette relation de dégoût. Le monstre est menaçant. Il ne m'amène pas à avoir de l'empathie, mais de l'apathie et de la peur, parce qu'il est dangereux pour moi, et je resterai toujours dans une question de scission, de séparation. Devant le monstre, je suis toujours en train, il est de jouer ma boîte noire, mais je suis dans un choix, détruire et tuer. Quelque part, le fameux trio cognitif qui déforme la relation à l'animal avec le monstre dans les jeux d'horreur fonctionne super bien. Pourquoi? Parce que le monstre est vu comme une chose, c'est un obstacle à mon avancée dans l'histoire. Le monstre est vu comme une abstraction. C'est vraiment des points de vie, des points de frappe, parce qu'au-delà de sa représentation, plus un monstre est gros, plus je sais que je vais devoir me battre contre lui. Et c'est aussi une catégorie, c'est-à-dire qu'on est dans le bestiaire et la vision très manichéenne. C'est le bien et le mal, le monstre et le mal, je dois absolument le détruire. Mais, et je finis là-dessus, donc l'animal n'est pas un animal en soi dans le jeu vidéo d'horreur, c'est une bête et c'est un monstre. Petite nuance, par exemple, dans mon corpus, il y a une relation aussi importante pour les hommes et les femmes. Et au-delà de la vision genrée, quand il s'agit de survivre, peu importe le genre, quand je joue un petit personnage féminin ou que je joue un gros bonhomme au gros bras dans un jeu vidéo d'horreur ou d'épouvante, je suis toujours en train de vouloir me battre et de vivre et de survivre. Ça va être la même chose, parce que regardez, quand j'avais fait l'animation, on n'est pas seulement avec des animaux, on est aussi avec des zombies, par exemple, dans Resident Evil. Il y a quelque part pas de relation de spécisme entre les monstres. Un monstre plus humain sera aussi dangereux qu'un monstre plus animal. Regardez les beaux monstres, les nécromorphes dans Dead Space, ce sont des humains qui ont été transformés en ces insectoïdes. Alors, quelque part, dans les jeux vidéo, il y a une certaine égalité. L'humain est traité, l'humain monstrueux, même je vous dirais que Lara Croft a passé 8 heures à tuer des hommes dans sa quête de survie de l'île dans laquelle on la plonge. Ce que le jeu vidéo fait peut-être, je pensais au début, je pensais d'intituler ma conférence « The Beast Within ». Parce qu'il y a ceci, c'est un jeu de loup-garou. Il y a aussi ce jeu qui s'appelle The Suffering, où l'une des techniques de jouabilité, c'est que plus je deviens fou, plus j'ai un monstre en moi, et j'ai besoin de devenir fou pour survivre, parce que je vais faire sortir la bête en moi, et c'est comme ça que je survis. Quelque part, les jeux vidéo d'épouvante nous montrent qu'il y a toujours une bête en nous, qu'il y a toujours, donc, quelque part, un animal en nous, et qu'il y a une certaine notion d'égalité sur la relation de survie. Merci.